Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours ce matin avec Cédric Emans, avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau. Dans quelques instants, le bras de fer des GG, c'est toujours le flou autour du Stade de France pour nos équipes de français et de rugby. Le Stade de France est-il indispensable aux Bleus? On se pose la question. 10h30, le nouveau craquage de Corentin Moutet, c'était cette semaine à Madrid, le tennisman français. Est-il victime ou coupable? On se posera la question là encore. Et puis 11h, une polémique qui enfle en Espagne avec des scènes assez lunaires, une conférence de presse des arbitres parfois en pleurs pour se plaindre du Real Madrid qui met trop la pression avant le Classico ce soir entre le Real et le Barça en finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid qui boycotte toutes les cérémonies. Les Madrilènes sont-ils devenus fous? On se posera la question et on va évidemment tout vous raconter. N'hésitez pas à aller voter pour les GG contre-attaque. Mais GG, ce matin, vous avez toutes proposé un débat. C'est soumis au vote. C'est sur le compte X des grandes gueules du sport. On vous attend évidemment nombreux. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation d'Albert Camus qui a dit un jour: il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de foot.
RMC, le bras de fer GG.
Stade de France, juste le choix le plus consensuel et le moins risqué. Le grand stade a désormais un nom, il reste à lui construire un destin.
But d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France.
Eder qui accroche par le maillot Koscielny, l'arbitre ne dit rien, Eder dans l'axe, Eder la frappe. Et le but,
c'est terminé. France remporte 30-29. Bel exploit des Français. Ouais. 15e victoire dans l'histoire des Bleus face aux All Blacks.
C'est vrai que jouer ici au Stade de France avec tout le public qui crie allez les Bleus, qui chante la Marseillaise, c'est quand même quelque chose de très rare.
Cher Stade de France, tu as très mal démarré. Déjà, on te surnommait SDF quand même. Tu saches qu'à chaque fois que je passe sur les autoroutes, à droite ou à gauche, je te salue comme ça.
C'était Franck Leboeuf, hein, que vous avez entendu cette lettre au Stade de France de notre ami Francky, on l'embrasse évidemment. Et si nos équipes de France de foot et de rugby allaient voir ailleurs? Depuis plusieurs mois, la bataille fait rage pour savoir quelle entreprise va récupérer la concession du Stade de France orchestrée par l'État. Au milieu de tout ça, eh bien les Bleus du foot et de rugby qui attendent un accord. Faute de visibilité, l'équipe de France de foot a déjà pris ses dispositions et jouera ses trois matchs de l'automne prochain au Parc des Princes. Le Stade de France est-il indispensable aux Bleus? On se pose la question ce matin dans les grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team oui, avec des nuances, mais la team oui tout de même, représentée par Christophe Cessieux et Cédric Emans. Dans le coin droit, la team non, la team des tennisman.
Avec Sarah, des nuances.
Avec non, sans nuances.
Ah,
Sarah Pitkowski.
Maintenant, il y a des nuances dans cette émission.
Julien Beneteau, t'as bien raison de le rappeler, Julien. Grande gueule ou pas grande gueule. Avant de débattre, parce que vous n'êtes pas d'accord, mais GG, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Loïc Braillet, qui suit de près ce dossier. Salut Loïc.
Salut JC, salut les GG.
Alors où en est-on aujourd'hui? C'est un dossier complexe. Hein.
Alors la concession actuelle du Stade de France se termine le 4 août prochain. Le consortium Vinci Bouygues qui exploite l'enceinte depuis son inauguration en 1998 va laisser les clés à JL Events. Plusieurs recours ont été déposés par les deux partenaires du CAC 40 pour dénoncer des irrégularités dans l'appel d'offres lancé par l'État, propriétaire du stade. Mais Vinci Bouygues a été débouté à chaque fois, laissant la voie libre à JL Events qui devient donc officiellement titulaire pressenti pour la future concession des 30 prochaines années. La signature officielle devrait intervenir dans le courant du mois de mai. Mais une grande question reste posée. Quel sera le futur modèle économique du stade? L'implication des deux plus grandes fédérations sportives semble indispensable pour trouver un modèle pérenne. La fédération de rugby a déjà trouvé un accord avec JL Events pour 4 matchs du 15 de France maximum par an et une meilleure répartition des revenus, plus intéressante pour la FFR, qui devrait récupérer entre 4 et 5 millions d'euros de plus chaque année. En revanche, pour le foot, ça coince. Aucun accord n'a été trouvé avec Philippe Diallo, le patron de la FFF. Les 3 matchs de l'équipe de France en automne se tiendront au Parc des Princes et la fédération compte bien faire jouer la concurrence entre plusieurs stades partout en France pour les rencontres suivantes. Rien ne garantit donc aujourd'hui le retour des Bleus au Stade de France. L'enceinte de Saint-Denis peut-elle être rentable sans accueillir la bande à Mbappé? Pas sûr du tout. En tout cas, les concerts et autres événements rentreront aussi bien sûr en ligne de compte. D'ailleurs, le premier locataire du Stade de France version JL Events devrait être ACDC qui a prévu une série de concerts début août.
Et ben voilà, ça va faire plaisir à Christophe Cessieux, tout ça, CDC.
Ah ouais. C'est ton époque. Ça va être sympa. Ça.
Encore, tu vas chanter?
Ah oui, je vais. Ah non, mais pas là tout de suite.
D'accord. Le Stade de France est-il indispensable aux Bleus? C'est la question que l'on se pose. On vous a posé cette question, évidemment. Consultation sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour l'instant, il y a une majorité de non. Il n'est pas indispensable aux Bleus à 65%, 35% oui.
C'est serré.
On va renverser.
Normal, on verra. Christophe Cessieux, vous êtes derrière avec Cédric.
Bien
pourquoi
sûr,
oui.
Mais bien sûr qu'il est indispensable. Et même si je ne suis pas un grand fan de cette enceinte, je préférais largement, et j'ai eu la chance de connaître l'époque du Parc des Princes dévolu aux équipes de France.
Et de rugby.
Le problème, c'est que le Parc des Princes appartient aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Bon, il va peut-être le quitter. Et le deuxième problème, c'est le peu de contenance du Parc des Princes. En 1996-95, on n'avait pas besoin et on remplissait pas 80 000 spectateurs dans un stade. Il n'y avait pas la place de toute façon au parc. Mais le parc était vraiment, pour moi, la vraie maison des Bleus. Elle l'a été pendant des années. Et il y a une ambiance, une cocotte minute, le Parc des Princes. Mais il est trop petit. C'est ça le problème. Il est trop petit et je pense que Nasser en est conscient lui aussi. Un pays comme la France, avec des équipes aussi performantes que nos équipes de France, a besoin d'un stade d'au moins 80 000 places, qui se trouve en région parisienne, la capitale, parce que quoi qu'on en dise dans les autres régions, Paris reste le phare de notre pays et Paris attire. Je veux dire, quand tu vois les supporters de rugby qui viennent de Toulouse, qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Toulon, de Clermont, une fois ou deux par an, eh ben ils sont ravis de venir au Stade de France. Ils amènent le pâté, le sauciflard, ils mettent le béret, ils mettent le
l'image du rugbyman.
Les supporters,
mais Christophe, on est pour oui là.
tu vas pas me dire le contraire, c'est non, tu
c'est
les
vrai,
connais.
C'est vrai,
les supporters
c'est vrai,
c'est du rugby. Enfin, moi je les adore. Je bois du pinard avec eux dans le train quand je prends le train avec eux. Mais c'est sympa. Tout le monde va de la soif. Il y a une belle ambiance. Et c'est la même chose pour les équipes étrangères et pour les supporters étrangers qui viennent à Paris. Paris, c'est la ville lumière. Alors, c'est sympa d'aller à Toulouse, c'est sympa d'aller à Lyon et à Marseille ou à Lille. Mais la France, c'est Paris. Et tu as donc besoin de ce stade de 80 000 dans Paris. Je le dis avec toute confiance, puisque je ne suis pas parisien moi-même et que je suis même parfois anti-parisien. Mais il n'empêche, la situation.
Il faut un stade à Paris, pour toi, c'est le stade de France.
80 000. Il faut peut-être le transformer pour le rendre plus chaleureux.
Alors,
Toujours, oui, parce que France 98 a fait rentrer ce stade dans une autre dimension avec la Coupe du Monde. Oui, parce que dernièrement, le Seven, les Jeux Olympiques, on a besoin d'avoir une enceinte de 80 000. Oui, il doit être à Paris parce que c'est la capitale, c'est le stade de France, c'est le stade des Français, parce que dans tout l'univers du sport, t'as envie d'aller dans ce stade. Alors après, je te rejoins, la conception du stade me gêne un peu parce qu'il n'est pas chaleureux. Géographiquement, d'être aussi retiré de Paris, ça pose aussi des problèmes. Mais quand tu veux recevoir des artistes de renom planétaire mondial, t'es obligé d'avoir une enceinte à 80 000. Tu peux pas le faire ailleurs. Et ce stade est conçu pour ça. Même si moi, j'enlèverai la piste d'athlétisme parce que j'ai besoin d'être, quand je suis dans les tribunes.
Tu nous raconteras justement, toi qui as joué au Stade de France. Hein, tu es le seul de la bande à avoir joué au Stade de France. Même si vous y êtes tous allés, évidemment, mais GG. Pourquoi c'est pas indispensable au bleu, Julien Beneteau?
Alors, leurs derniers arguments
Le coup du pâté du saucisson.
Non, pas plus. Non, le fait de devoir avoir un grand stade de 80 000 personnes à Paris, pour tout ce qu'ils ont, Christophe et Cédric, mis en avant, là-dessus, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, là, la question, c'est est-ce que le Stade de France est indispensable aux équipes de France? Aujourd'hui, on voit qu'il n'est pas indispensable. Ça fait que c'est que depuis très, très récemment, que sur les matchs du 15 de France, il y a cette scénographie, il y a cette ambiance exceptionnelle parce que c'est lié aux performances du 15 de France, à l'engouement qu'il y a, et aussi à la mise en scène, des matchs, etc. Mais il y a eu des matchs incroyables du 15 de France à Marseille, où ils ont battu les Sudaf, ils ont battu les Blacks, avec une ambiance exceptionnelle. L'équipe de France de foot joue, au Parc des Princes, a joué longtemps, il va y retourner. L'ambiance, elle est magnifique aussi.
Julien, t'as raison sur l'ambiance, mais économiquement.
Oui, non, mais c'est pour ça.
Oui, mais non, je suis pas d'accord sur le plan économique.
Bah, parce que le prix que coûte le Stade de France
et quand il est pas rempli, c'est beaucoup trop cher.
Oui, c'est là que si tu sais qu'un match ne va pas le remplir, mais envoie.
Exactement.
Du moins, c'est la programmation qui est trop chère.
Est-ce que pour vous, le Stade de France, pour le 15 de France, c'est Twickenham pour le 15 de la Rose?
Oui.
Ah ouais?
Bah ouais.
Il n'y a pas la même histoire.
Bah, Twickenham, c'est...
Mais le 15 de la Rose, il joue jamais ailleurs qu'à Twickenham. Alors que vous, vous avez joué ailleurs. Toi, pour moi, ça rentre pas.
Trouve un autre stade et il y a bien eu des matchs. C'est pas une bêtise, mais il y a bien eu des matchs.
Raison économique, Julien. Twickenham, il y a bien eu des matchs de rugby en Angleterre.
Peut-être, mais ce que je veux dire,
il y a pas eu des matchs.
C'est-à-dire
une énorme bêtise.
À chaque fois qu'il y a un match,
j'en fais les travaux.
À chaque fois qu'il y a un match du 15 de la Rose à Twickenham, c'est
90 000.
Bam, ça rentre direct
parce que leur appartient.
Alors que quand tu vas louer un stade à Manchester,
à ton avis, pourquoi?
50 ans, ils jouaient déjà et économiquement, c'était pas pareil. Mm. Ils jouaient déjà, c'était leur, c'est leur rente, c'est leur.
C'est
comme le Pays de Galles, ils vont pas jouer ailleurs qu'à l'ancien Parc.
C'est comme l'Irlande à la Viva Stadium.
Exactement.
On n'a pas d'antre.
Moi, je trouve que le Stade de France n'incarne pas ça. Mais c'est un
n'incarne pas ça.
Alors, si c'était. Il appartenait à. Ils n'arrivent pas à trouver un accord avec la Fédé de foot. Pourquoi ça serait pas l'ordre du rugby?
Ah.
Et tu fais un autre stade.
Tu vois, c'est ce que la Fédé de rugby a essayé de faire. La fédération a essayé de monter son rugby, mais financièrement.
C'est Ginon qui est propriétaire du loup. Donc c'est normal qu'il trouve un accord.
Ça peut le devenir.
Et si tu le modernises, ou tu l'améliores et tu enlèves cette piste.
Non, mais c'est vrai que si ça appartient.
Parce que la scénographie, quand tu vois.
Exceptionnelle aujourd'hui.
C'est ce que la Fédération française de rugby en a fait et arrive à en faire un moment, mais magnifique. Pour vous dire, lors du dernier tournoi, mais j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer sur la pelouse. Je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas existé? Pourquoi? Mais j'ai retrouvé des tics sur l'hymne où je faisais mes petits pas parce que j'étais totalement pris dans l'ambiance. Il faut un truc merveilleux, la Fédé.
Et en plus, l'hymne qui arrête d'être joué par la fanfare et qui est repris a cappella par tous les spectateurs du Stade de France, c'est des moments magiques. Mais c'est assez récent. Mais je pense qu'ils travaillent sur le truc et que ça peut vraiment devenir un stade avec une âme lorsqu'il.
Je demande que ça.
Le Stade de France est-il indispensable aux Bleus? On se pose la question dans les grandes gueules du sport. Évidemment, vous nous appelez au 32-16. Sarah Pitkowski.
Moi, je voudrais juste rajouter autre chose. Là, on voit que les côtés positifs de ce Stade de France, mais je voudrais vous rappeler qu'il peut aussi cristalliser certains matchs. On se souvient d'un certain France-Algérie. On se souvient aussi de l'année dernière de France-Israël. Il faut aussi savoir que ce stade, à des moments, là où il est positionné, c'est-à-dire au cœur de la capitale, ou en tout cas à Paris.
Il n'est pas loin des racailles, c'est pour ça qu'il ne te plaît pas.
Non, pas du tout. C'est qu'il cristallise dans le sens où, effectivement, on reçoit des matchs qui ont une histoire, qui peuvent avoir une histoire qui va bien au-delà du sport, et que finalement, des gens se l'approprient au-delà du sport. Ça, c'est la première chose. Et les équipes de France, c'est les équipes de France de tous les Français. Pardon, effectivement, de prendre ton train pour monter, pour aller voir ton 15 de France. Mais aller jouer au plus près des Français, que ça soit à Marseille, que ça soit à Lyon, que ça soit à Lille, dans des nouveaux stades, c'est aussi proposer son équipe de France, que ce soit le foot ou le rugby, à un public plus large. Voilà, c'est
mais est-ce que ça doit être tournant, une équipe nationale? Est-ce qu'elle ne doit pas avoir son stade, sa légende, son...
Je pense qu'il faut aller à la rencontre. Il faut aller à la rencontre de tout le monde.
Économiquement, c'est les équipes, tu l'as très bien dit, les équipes des Français, le stade des Français. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller à la rencontre de ton public parce que c'est un vrai budget de monter de province, le train, la place de match.
Et encore une fois, il faut les remplir, les 80 000, d'accord. Quand tu joues contre des petites équipes.
Quand tu parles de matchs de foot où ça a cristallisé la peur, ben, c'est des faits de sport, du moins quand tu rentres dans des enceintes.
C'est pas de la faute du stade.
Non, c'est à prendre en considération.
C'est le foot.
Mais à prendre en considération aussi.
Le foot et la politique, on prend
ce qui s'est passé. Mais on sait que le sport.
Mais tu peux très bien panacher. C'est-à-dire, tu organises les plus grands matchs face à l'Angleterre, face à l'Irlande, pour parler du rugby, ou face à l'Allemagne, l'Italie, quand il s'agit de football, et les phases finales de compétition. Et puis les matchs un peu moins importants, tu les fais
sur les délocalises.
À Marseille, à Lille, un stade de
spectacle. Parce que si tu veux le remplir, le rentabiliser, tu mets, et je suis d'accord avec toi, tes grosses affiches au stade de France.
Tes gros concerts.
Et après, tu vas à la rencontre de ton public.
On est d'accord. C'est-à-dire qu'on est d'accord dans le sens où il ne faut pas avoir un stade que pour les équipes de France. pas rentable, on s'en
Oui, mais le Stade de France, hormis les concerts, enfin, je veux dire, il faut bien que on se l'approprie, ce Stade de France.
Oui, mais tu vas te l'approprier par la chaîne. Tu vas te l'approprier.
Mais il y a quoi comme meeting?
Il y a des meetings d'athlétisme. Il y a des championnats du monde.
C'est terminé, il n'y aura plus de piste.
On la mettra en dehors du stade.
Ouais, exactement.
Non, mais tu vas te l'approprier par des victoires, par des moments, des souvenirs.
Est-ce que le rugby se l'est approprié?
Ouais, je pense qu'il est.
Parce que l'équipe de France de foot, avec 98 se l'est approprié.
D'accord. Et maintenant, c'est l'équipe de France par la scénographie, par ce qui s'y passe.
Même le quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud.
Oui. Mais non, mais là, on est rentré dans une autre dimension de la scénographie. Du moins, c'est comme quand on va dans un concert, on y va pour le chanteur, mais on y va pour vivre une expérience. On y va pour l'ambiance, pour la scénographie, pour la scène, pour ce qu'on y vit, pour les émotions qu'on va y vivre. Quand tu vas au Stade de France, tu veux vivre des émotions. Et aujourd'hui, désolé, mais quand on regarde et on fait le comparatif rugby-foot, on a un peu plus de scénos au rugby et des émotions fortes.
Et nous, on a un peu plus
et le public monte de la région pour aller, pardon. Parce que j'adore m'écouter. Donc
j'ai dit, nous, on a un peu plus d'étoiles sur le maillot.
À partir de là, si on parle. Et après, le foot, c'est différent. Voilà. Mais je ne suis pas contre le foot, mais je ne suis pas pour.
Raconte-nous ton expérience. Toi qui jouais avec le 15 de France,
le seul truc, c'est que.
Quand tu venais jouer, juste après, je te redonne la main. Quand tu venais jouer, Cédric, au Stade de France, est-ce que tu dis, ah super, on va jouer au Stade de France, on est l'équipe de France, qu'il y avait ce côté-là ou non, jamais?
Oui, tu montes parce que c'est des matchs fort en jeu, il y a une pression, même avec tout, encore une fois, vous allez dire
Toulouse, mais Coupe du Monde au Stade de France.
Ouais, 2007. Et puis même avec Toulouse, grâce à Max Godini ou René Buscatel, on a joué des matchs de championnat où il a mis les places à 5 euros. C'est ce qu'on dit, c'est ce que t'en fais. Tu veux le remplir? Pourquoi le foot, ils mettent pas les places à 2, 5 euros pour le remplir? Elle est là. Mais par contre, après, si on parle d'ambiance, le public est trop loin. Le public est vraiment trop loin. Parce que quand t'es sur la pelouse, tu vas au Millennium, à Cardiff, quand le toit est fermé et que ça pousse.
Ouais, mais c'est qu'un stade de rugby.
Tu t'entends pas. Et la pression, les ondes, que tu les prends. Et là, au Stade de France, tu prends que dalle.
Ouais, c'est très dur. Il faut vraiment
c'est
qu'il y ait.
C'est comme, du moins, vous avez, dans le tennis, fermé, ouvert.
Ouais.
Quand ça pousse et que c'est à Bercy, la résonance du public, elle est monstrueuse.
Non, mais le public au tennis est tout très, de suite plus proche des joueurs. Vous êtes à deux mètres des spectateurs.
Il y a certains cours centraux. Il y a certains cours centraux.
Ouais,
ça monte un peu à la verticale. Il y a certains cours centraux qui sont comme ça. Il y en a d'autres.
À New York.
Aux États-Unis, à Flushing,
ils sont très loin. Le cours est très grand, etc. Et du coup, l'ambiance, elle s'évase. Donc c'est vrai que le Stade de France, sur l'ambiance, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'incroyable.
On les a entendus, les supporters du rugby à 7 pour la médaille d'or. Ça avait beau être ouvert.
Il faut qu'il y ait une très grosse ambiance, un très gros match.
Voilà.
Et du succès. Le stade de France arrive à se dépasser.
C'est le problème de ce stade. Parce que quand ça pousse pas, il est glacial.
Et c'est souvent le retour qu'en font les athlètes.
Et moi, sur la scénographie, etc., il y a un petit truc, c'est que, attention, ils mettent les matchs de rugby à 21h, 21h10, ça commence à 21h15, ça finit, et on le disait, le Stade de France, les gens qui viennent à Paris, les matchs, ils finissent à 23h15, avec les arrêts de jeu à 23h20, 23h30, s'ils veulent profiter en famille de Paris derrière, t'es pas avant minuit, minuit et demi, dans les rues de Paris. C'est aussi.
Ah oui, ça aussi. C'est la programmation est beaucoup trop tard. Je suis d'accord. Alors qu'en Angleterre, tu joues l'après-midi.
Économiquement, quand tu avances tes matchs, derrière, tu as l'économie de ton pays, hôtellerie, restaurant, soirée. On le voit en province. Ils essayent d'avancer les matchs. Parce que quand tu finis à 23h minuit, un bar qui perd 2h, un restaurant qui perd un service, c'est catastrophique. Il faut penser à ça. C'est pour ça que d'avancer un peu les matchs pour permettre à toute l'économie du public de France de pouvoir en vivre.
Le diffuseur est
faire un comparatif entre Top 14 Pro D2. Je vis à Brive. Quand t'es en Top 14, c'est 20% de plus. Quand t'es en Pro D2, t'es en dessous. Du moins l'économie, l'hôtellerie, les restaurants, tout. Ouais. Donc il faut réfléchir à ça aussi.
Bon, vous allez tous bosser au consortium parce que vous êtes bien affûtés sur le sujet. Il y a Cyril qui nous appelle au 32-16. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors le Stade de France est-il indispensable aux Bleus?
Alors pour le foot, clairement non. C'est le sport que je connais le mieux. J'étais voir des matchs de rugby. Pour le rugby, je peux comprendre qu'ils y aillent parce qu'ils n'ont pas d'autres stades. En général, quand ils vont se déplacer en France, il n'y a que les stades de foot. Et malheureusement,
Au foot, ils n'ont pas comme stade.
C'est les mêmes. Hein.
Mais au foot, en foot, on a plein de stades au foot. Et quand l'équipe de France joue, les clubs ne jouent pas. Au rugby, quand l'équipe de France joue, on peut pas emprunter les stades de foot parce que le foot joue en même temps. Mais le rugby, je comprends que c'est au Stade de France. Mais pour le foot, non. Et franchement, à part les très très gros matchs et les finales, oui, au Stade de France, je comprends. Mais sinon, je préfère aller largement voir des matchs de l'équipe de France. J'en ai vu au Parc des Princes, à Lille, j'en ai vu à Lyon. C'est bien mieux. L'ambiance, elle est bien meilleure, quoi.
Mais regarde, sur le foot, quand c'est la Coupe de France, c'est le petit poussé, du moins quand c'est un petit poussé, mais ça monte des régions. Donc cette ambiance-là, tu la retrouves.
Parce que c'est un match exceptionnel.
Oui. C'est une finale, c'est totalement différent. Et de toute façon, il faut que ce soit sur un terrain neutre. Et à un Stade de France, là, pour le coup, il n'y a rien de plus neutre. Mais, enfin, sauf quand Paris y va, parce que c'est à côté. Mais oui, pour une finale, je comprends. Mais sinon, pour l'équipe de France, non, pour l'équipe de France, il ne devrait même pas y avoir de stade attitré, sauf pour un très très gros match. Mais sinon, ça serait bien que ça aille sur tous les stades qu'on a à peu près en France. Il y a Nantes, il y a Rennes, il y a Lille, il y a Strasbourg, il y a Lyon. Il y a Marseille qui aussi. Puis attention, il y a Paris qui va avoir bientôt un nouveau stade, donc qui sera aussi de capacité égale au Vélodrome.
Oui, c'est pas encore fait, mais ça,
c'est pas encore fait.
C'est pas encore fait parce qu'il n'a pas envie que ça se fasse en tant que supporter du PSG, parce qu'il n'ira plus les voir. Mais
le Parc des Princes reste un stade quand même exceptionnel, que ce soit pour l'équipe de France ou pour le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous au 32-16. 10h28, je vous donne le résultat. C'est du 36-64. Vous avez gagné un petit pourcentage, les copains. Bravo, vous êtes bien battus.
On a bien bossé.
C'est personnel.
Voilà. Mais pour vous, chers auditeurs, le Stade de France n'est pas indispensable au bleu, on l'aura bien compris.
Eh ben, écoutez.
Allez, tout de suite, le nouveau craquage de Corentin Moutet. Est-ce qu'il est victime ou coupable? On en parle notamment avec les copains du tennis.
Donc, du coup, il y a Eric Salieu qui revient.
Eric Salieu va revenir.
Bon. En direct,
c'est un intermittent en du
direct.
Spectacle.
Pendant en direct. Maintenant, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkovski, Julien Beneteau, Cédric Emmons. Dans une dizaine de minutes, ce sera les GG contre-attaque. C'est à vous de jouer les GG. Vous nous avez proposé des débats. C'est extrêmement serré entre Sarah Pitkovski et Julien Beneteau. Tu veux revenir sur ce fait de match ou de non-match, malheureusement, lors du derby, avec, selon cette pièce d'un supporter, c'était dimanche dernier, et pour toi, peut-être renommé le cours Philippe Châtrier, le cours Raphaël Nadal. Voilà deux débats très intéressants. Oui, Julien.
Si je gagne la contre-attaque, on peut renommer le studio, Julien Beneteau?
Je pense qu'on peut le faire, oui.
Non, mais c'est pas possible.
Tu as bien raison, bravo. En tout cas, t'es devant.
Julien, tu gagnerais une finale. Là.
Voilà.
Non, pour l'instant, c'est une demi-finale parce qu'on est quatre.
Ouais. Tu en as gagné des demi-finales. Aller en finale. Oui, c'est pas beau, ça, Sarah. Bah, oui. 38% pour toi pour l'instant, Julien. 35%
pour et nous derrière.
Et vous, 13 et 14%. Je laisse vous battre avec vos pourcentages. D'accord, les copains.
On est titulaire.
J'ai décidé de me retirer
de la vie politique.
Non!
De la contre-attaque.
Ah, on revient. Les gens disaient non.
C'était la dernière fois. Ça apprendra à la
je pense
team
que tu t'es plombé en chantant.
Aucunement soutenu aujourd'hui. Eh bien, vous n'en aurez plus.
C'est parce que tu t'es plombé en chantant.
Voilà. Mais ça, c'est les 60 ans. Hein. Plus personne te suit maintenant. Enfin, quoique, maintenant, c'est plus facile de te suivre parce que. Bref.
Quoi Non, mais c'est lui qui essaye de suivre.
Ça n'a rien à voir. Allez, du tennis. Corentin Moutet a encore fait parler de lui, mais pas pour ses résultats sportifs. Cette semaine, le Français qui a abandonné sur blessure au premier tour du Masters 1000 de Madrid s'en est pris au public après avoir été sifflé durant toute la rencontre. Un épisode qui intervient un mois après le Masters 1000 de Miami où Corentin Moutet avait également perdu ses nerfs sur le court. Il avait moqué les réactions d'un public hostile également à son encontre. Alors cette semaine, le Français Harold Maillot, son adversaire à Madrid, a pris la défense de Corentin Moutet. Vous allez voir, son angle est plutôt intéressant. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
C'est très français, les gens aiment beaucoup voir les Français perdre, c'est leur kiff. On est plein de joueurs, on devrait tous se pousser vers le haut. Voilà, il y a des joueurs comme moi, j'étais numéro 1 mondial junior, et j'ai pas réussi à percer comme font les autres. Est-ce que ça fait de moi un mec mal? Est-ce que ça fait de moi un mec, comme je lis des fois, un branleur? Non, ça fait juste de moi quelqu'un qui essaye, qui a pas sûrement les mêmes capacités que les autres, mais qui essaye et qui fait de son mieux. Après, voilà, je pense que c'est très français de critiquer tout le temps rond à tout va, les gens qui sûrement ils connaissent pas grand chose, il faut les comprendre aussi. Ça fait longtemps qu'ils attendent un mec qui gagne un grand chelem un jour. Voilà, je juge pas, mais c'est assez petit de ces gens-là.
Bon, il faut préciser tout de même que Corentin Moutet a été pris en partie par le public espagnol.
Ah, hein, voilà, c'est pas Moutet qui parlait là.
Hein, non, c'est Harold Maillot.
Son adversaire.
Oui, c'est Harold Maillot, son adversaire, qui prenait sa défense parce que Corentin
mais
Moutet.
Il prend pas sa défense, il est hors sujet sur
lui. Voilà. Oui, mais il est chahuté par la presse française. Tout de même, Corentin Moutet, la preuve, on en parle ce matin dans les grandes gueules du sport.
Non, mais t'es sportif de haut niveau. Si t'acceptes pas d'être chahuté, t'es pas sportif de haut niveau.
Je vais d'abord poser la question, les copains.
Pardon, je m'emballe.
Est-ce qu'il est victime ou coupable, Corentin Moutet? C'est la question qu'on se pose, Cédric Hémon.
Vous avez compris, coupable.
Julien Beneteau.
Je vais nuancer.
Ah ben voilà, on repose la même question. Charvet. Alors maintenant ici, on n'a pas d'avis.
Non, voilà.
Il est certainement pas victime.
Ça... Mais pas forcément coupable.
Exactement.
Ok, Sarah Pitkowski.
Il est plus coupable que victime.
Ok.
Moi je vais faire une Georgina Dufoy. Il est responsable mais pas coupable.
Responsable mais pas coupable. Ok, j'ai à boire et à manger. Eric Salio est évidemment
c'est
avec
pas
nous.
Pas mal ça, responsable en plus, mais pas coupable. En j'aime plus, beaucoup.
Bah oui, ça
j'attends de voir ce qu'il y a derrière.
Il a le sens de la formule. Eric Salio, spécialiste tennis, est avec nous. Rebonjour Eric. En plus, tu as une histoire particulière avec Corentin Moutet qui ne veut plus donner une conférence de presse quand tu es présent dans la salle. Donc évidemment, ça nous intéresse. Sarah Pitkowski, pourquoi plus coupable?
Pourquoi plus coupable? Alors, il y a une chose où il est victime. Il est quand même victime de sa folie. Et donc, en fait, tout est prétexte aujourd'hui pour perdre ses nerfs sur le terrain de tennis. Donc, on peut parler de Madrid, mais ça date depuis le début de l'année. Il prend 15 000 dollars d'amende à l'Open d'Australie parce que il s'en est pris verbalement aux arbitres en disant que les arbitres pouvaient ruiner des matchs de tennis. À Miami, il est aussi éliminé et il prend des pénalités par l'arbitre pour un soi-disant un spectateur qui lui aurait fait un doigt d'honneur. Enfin, il y a toujours un prétexte qui fait qu'il sort complètement de son match. Il a failli en venir aux mains au Challenger de Phoenix face à Bublik. Ok, Bublik, il est aussi centré que lui. Et là, il y a encore à Monte-Carlo, il face à Echeverry, il part en sucette complet, il fait un show, il perd au troisième et il casse encore des raquettes. Et là, à Madrid, la même chose. Donc, si c'était une fois, bien sûr qu'on ne peut pas dire qu'il est coupable. Mais ça se répète de plus en plus fréquemment. Et donc, en fait, comme il se sent peut-être moins bien sur le court, eh bien, sa folie fait qu'il y a des dérapages sur tous les matchs.
Oui, mais Sarah, sa folie, il doit la travailler. S'il sait que c'est un point sur lequel...
Oui, alors après, on peut parler de son entourage, on peut parler de son staff.
Non, mais il est là.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est victime.
Il perd des matchs, il se cache derrière.
Là, aujourd'hui, il est coupable des réactions qu'il a et il est sanctionné systématiquement. Je vous donne juste les 15 000 dollars de l'Open d'Australie, mais j'aimerais bien de savoir combien on est.
Ça lui coûte cher.
Le montant aujourd'hui de ce que ça lui coûte... Je pense qu'il y a un bon budget qui avec au moins 5-0 à ce rythme-là. Hein.
Julien Beneteau.
Non, oui, ça lui coûte cher financièrement en amende à l'année. Ça lui coûte cher financièrement parce qu'il perd des matchs. Donc, il gagnerait plus d'argent et plus de points ATP s'il arrivait à gérer ça. Après, en fait, pour moi, il est pas victime parce que c'est lui qui se met dans cette position. De craquage et donc il peut donner l'occasion de se faire siffler derrière les choses comme ça.
Il en joue d'ailleurs,
je pense, un peu de temps en temps. Après, pour moi, je le mets pas, enfin, pour moi, il est pas coupable de quoi que ce soit. C'est parce que d'abord il se fait du mal à lui-même, il se pénalise lui-même sportivement au niveau de son image, mais ça, il en a la cure et tant mieux pour lui. Enfin, il est comme ça. Il a un vrai problème de gestion des émotions face à une situation d'injustice ou que lui ressent comme une injustice. Donc, avec les arbitres, avec un public qui lui est hostile, alors qu'il estime qu'il a rien fait. Et c'est ce qui s'est passé à Miami au départ. Il joue un Chilien. Les Chiliens sont fous dans le bon sens du terme. Et il se dit, mais pourquoi ils sont tous contre moi? Et il y a ce sentiment d'injustice qui monte où lui, il a du mal à gérer ça.
Il faut qu'il s'en serve comme une force. Les grands joueurs, c'est McEnroe qui faisait le show.
Qui doivent le travailler.
Il faut prendre les exemples des grands champions. Comment se servir de cette haine-là pour capitaliser de la force? Elle est là. Et lui, il n'y arrive pas. Sa folie prend le dessus sur la raison.
Mais moi, j'ai discuté avec son entraîneur. Exactement, mais c'est vrai. J'ai discuté avec son entraîneur la semaine dernière avant qu'il parte à Madrid. Il m'a expliqué Miami, etc. C'était avant Monte-Carlo. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois?
C'est l'escalade.
Parce que tu vas te retrouver dans cette situation-là. Le public le sait maintenant.
Mais oui.
Donc ils vont continuer. Et donc, il va falloir que tu trouves quelque chose de différent pour réagir, pour pouvoir arrêter de péter les plombs à ce moment-là, qui te coûte les matchs. Donc, voilà, c'est vraiment des sujets. C'est vraiment des sujets sur lesquels ils en sont conscients et ils essayent de travailler.
Christophe, c'est sûr. Moi, je pense pas que la question, c'est savoir s'il est victime ou coupable. Ce mauvais caractère, cette propension à s'énerver, il l'a au fond de lui. Et je suis persuadé que s'il pouvait s'en passer, il s'en passerait. Mais il faudrait qu'il aille faire une psychanalyse qui durerait des années pour arriver à sortir toute cette colère qu'il a en lui. Ce genre de truc est difficilement rectifiable, mais certains ont réussi à le faire. On pense à Federer, qui était un peu du même genre lorsqu'il était jeune joueur, et qui, une fois qu'il a réussi à réguler ça, est devenu le joueur que l'on a connu. Mais Moutet peut-il connaître le même destin? J'en suis pas persuadé. Je pense pas qu'il a tout à fait les mêmes qualités tennistiques. Il est donc pour moi à la fois victime de ce caractère et coupable de ne pas essayer de changer. Bon, une fois que t'as dit ça, qu'est-ce que tu fais? Je pense pas d'ailleurs que ce soit préjudiciable plus que ça au tennis, qui de tout temps a connu des têtes de cochon. Cédric le disait tout à l'heure. McEnroe faisait le show. Jimmy Connors faisait le show. Ils étaient détestés par les uns, adorés par les autres, sifflés, mais ils existaient. Et quand tu avais les deux sur le court, eh bien, tu faisais ça le comble. Et je suis sûr aujourd'hui que les organisateurs de tournois sont très contents d'avoir des garçons comme Moutet ou comme Benoît Paire, parce que on va voir le spectacle, on va pas voir uniquement un match de tennis. Ouais, on va voir des mecs qui ont une vraie personnalité, qui s'énervent, qui cassent des raquettes. Il y a l'odeur du sang quand tu vas voir ces mecs-là.
Oui, mais tu vends pas la promotion du tennis.
Non. Tu vends pas le.
Non, mais ça se retourne alors, très vite. C'est là où le public est très versatile, parce que. Par exemple, on va prendre le premier tour de Roland Garros qui va arriver. S'il joue pas une tête d'affiche, il va jouer sur un petit court. Il va jouer sur le 7 ou le 14,
il quelque va chose sur le comme 14, ça. Ouais.
Ça va être plein à craquer. Mmh. Il va jouer un étranger, ça va être plein à craquer. Parce que les Français vont vouloir voir Moutet gagner, vont l'encourager, voir ses coups de génie, ses amortis, ses défenses incroyables, ses lobes, etc. Si pendant le match, il arrive pas à gérer ses émotions, il commence à péter les plombs, il commence à parler à l'arbitre, il commence à jeter sa raquette, etc., il sera sifflé. Et là, ça va être l'engrenage. C'est-à-dire que le public, comme tu dis, Christophe, moi, ça m'a toujours fait rire. On dit le tennis, c'est devenu trop lisse. Il y a mec, il n'y a plus les émotions. Donc déjà, on prend des amendes de mutants. Mais à Bercy ou partout, dès qu'il y a un mec qui fait ça, il lâche sa raquette, il tape la raquette. Eric, tu peux en témoigner. Il se fait siffler direct, qu'il soit français ou pas.
Mais d'ailleurs, donc, à Roland-Garros, moi, je me souviens, j'avais eu la chance d'aller voir le 8e de finale de Corentin Moutet. À chaque fois qu'il faisait un service à la cuillère, le public français sifflait.
Oh, ah bah, tu vois, alors que son service à la cuillère.
Mais ça, c'est français. Plus, ça, alors, c'est uniquement
alors
français.
Alors que son service à la cuillère, en plus, face à certains joueurs, déjà, il le maîtrise à la perfection techniquement et tactiquement.
Avec du rétro.
Ouais. Et tactiquement, c'est pas si bête, de temps en temps. Et il déstabilise les adversaires avec ça.
Ok, Eric Salio, il y a beaucoup de choses à dire sur Corentin Moutet. Oui. T'as eu un petit problème avec lui quand il était junior et depuis vous parlez plus trop. Quoi.
Oui, mais ça, c'est pas grave. Non, mais moi, ce que j'observe, parce que je regarde tous ces matchs, on n'est pas loin de l'autodestruction. Et pourquoi? Alors, je ne vais pas dire qu'il s'est construit cette image, parce que le terme n'est pas exact, mais il a cette image de sale gosse. Dans une cour de récréation, quand il y a une bagarre, eh ben, il est toujours dans les mauvais coups. C'est un peu ça. Et Julien faisait allusion au match contre un Chilien. En fait, tout est parti de là. Il y a un an et demi, il joue Jarry à Santiago. Ouais. Quart de finale.
Très chaud.
Night session. Premier point du match, il fait service à la cuillère, ace. Évidemment, le public n'apprécie pas. Il gagne le match. Match fantastique. Il gagne le match. Célébration un petit peu grossière. Le public chilien n'a pas oublié. Et là, il retrouve un Chilien à Miami. Grosse communauté chilienne en Floride. Et les mecs se sont donné rendez-vous, c'est comme des groupes de supporters, on va lui faire la peau, on va le provoquer, on va lui faire péter une durite, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ajoute que maintenant, il a donc les supporters à dos, il a les arbitres à dos.
Oui.
Les arbitres, maintenant, ils en ont marre d'arbitrer Moutet. Regardez, Zverev, c'est à Miami, je crois. Il y a un mec dans la tribune qui l'emmerde. Il appelle l'arbitre, le supporter, il est tout de suite expulsé du court. Moutet, il dit, il y a un mec qui fait un doigt d'honneur. Oui, t'as raison, Corentin. On va appeler le superviseur. Ils font rien. Parce qu'ils ont plus envie de se battre pour Moutet parce que.
Il leur met trop la figure.
Il a cette image. Il n'a pas construit cette image.
Non, non.
Mais il a cette image et c'est terrible. Heureusement, il y a Roland. Roland, il fait 8e l'an passé. Parce qu'il joue un tennis fantastique. Le public est derrière lui. Et il fout 6-2 à Sinner avec une collection de ace à la cuillère.
Ouais.
C'était fabuleux. Sinner a pas bronché après gagnant 4. Mais je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que le public français sifflait les ice à la cuillère.
Par contre, quand tu as ce genre de
quand ça marchait plus, le premier set c'était fantastique, mais dès que ça marchait un petit peu moins bien, il commençait à se faire siffler.
Quand t'es dans cette démarche là, il faut être fort mentalement. Du moins, quand tu sais que quand dans un sport autre que tu vas provoquer, tu vas haranguer derrière, il faut que tu fasses abstraction de tout ça. Sinon, c'est de l'autoflagellation.
Ah ouais, parfois il est là-dedans. Hein.
Mais tu lui parles un peu, toi?
Je le parle quand je le côtoie, etc. Mais il est conscient.
Il est venu dans cette émission, c'est un garçon en plus.
C'est comme Benoît Paire, en dehors du terrain, etc. Il n'y a pas de souci. Et en plus, il s'intéresse à plein d'autres choses, à la musique, et il est très intéressant. Il est très intéressant.
Ah oui. Bon, on souhaite évidemment un magnifique Roland-Garros dans quelques semaines à Corentin Moutet. Évidemment, on suivra ses performances et on espère qu'il y aura un petit peu moins pour lui de pétage de plomb. Hein. Après, c'est son tennis. Il le joue évidemment comme il le sent. Merci beaucoup, Eric Salio, d'être venu nous voir. On aurait pu parler de Raphaël Nadal dans quelques instants, mais je crois que c'est le derby Saint-Etienne-Lyon qui a fait sale comble avec Julien Benneteau qui nous propose ce débat. On en parle dans quelques instants dans les grandes gueules du sport. À tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous à partir de 11h. La folie du Real Madrid, vous allez voir, c'est une histoire absolument incroyable. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport. Cédric Aymon, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau, Christophe Cessieux à partir de 11h. Mes amis, la folie du Real Madrid. On va vous raconter cette journée incroyable hier autour de la finale de la Coupe du Roi du Classico Real Barça avec notre envoyé spécial. Mais ça, ce sera dans une dizaine de minutes.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC Gold ?
C'est le moment de jouer sur RMC. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros cette semaine sur notre antenne. Et nous allons vous faire un petit blind test sur la playlist de RMC Gold. Est-ce que vous reconnaissez qui chante ? Vous ne dites rien, les GG. Vous ne dites rien. Si vous pensez que c'est Daft Punk, vous envoyez un au 7-32-16. Si vous pensez que c'est Bob Sinclair, vous envoyez deux au 7-32-16, ok? Around the world, c'est vous qui jouez pour remporter 10 000 euros. Soit c'est Daft Punk, vous envoyez le 1, soit c'est Bob Sinclair et vous envoyez le 2 au 7-32-16. Bonne chance
à
tous.
On a le droit de les conseiller?
10 000 euros.
Non. Envoyer un? Non,
non, on peut pas les conseiller. On peut pas les conseiller. Mais vous aurez tous reconnu.
Non, mais est-ce qu'on peut jouer? Non plus.
Non plus. Vous ne pouvez rien faire dans cette émission. C'est fou. Quoique si, vous pouvez proposer des débats.
RMC. Les GG contre-attaque.
Et vous avez proposé 4 débats ce matin. La dernière place pour Michel Desjoyeaux. De retour, le sexagénaire comme Christophe Cessieux. Ça n'a pas pris, Christophe. Ça n'a pas pris 12%.
Non.
Ça n'a pas pris.
Eh ouais.
Bonne.
J'en suis désolé pour Michel Desjoyeaux, qui est un formidable athlète.
On l'embrasse.
Mais il n'est pas footballeur, donc il n'y a que le football qui intéresse nos éditeurs.
16%, troisième place pour les simulations. Est-ce que c'est réservé au foot? Pourquoi pas dans le rugby? C'était la proposition de Cédric Aymon. C'était intéressant. Mais c'est terminé. Troisième. 35% pour le cours Philippe Châtrier, renommé Raphaël Nadal.
Elle a pas
35%,
gagné.
Elle n'a pas gagné parce qu'il y a 37% pour les sanctions autour du derby Saint-Etienne-Lyon. C'est une victoire pour Julien Benneteau. Mais forcément, Sarah, on reparlera de ce sujet avant Roland Garros.
On a entendu parler toute la semaine, les gens ont encore envie d'entendre parler de ça.
Ben oui, c'est comme ça, c'est la démocratie.
Ah, moi, je n'ai pas écouté cette semaine.
Julien Benneteau, tu veux nous dire quoi sur le derby justement et sur ce supporter qui a fait à un moment donné arrêter la rencontre en visant un arbitre avec une pièce de monnaie?
Voilà, non, mais c'est pour revenir un peu aussi, parce qu'on parle des simulations dans le foot ou dans le rugby, ce qui se passe en tribune. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus, comment dire, ne pas être sévère avec les sanctions individuelles et pas collectives. Un entraîneur de foot, les joueurs, un directeur sportif peuvent pas, comment dire, pâtir d'un acte isolé d'un individu. On peut pas retirer des points, donner match perdu à une équipe qui fait des efforts parce qu'il y a un individu qui se comporte mal. On peut pas non plus priver 95% ou 99% du public d'un match si le stade est à huis clos parce qu'il y a un individu qui s'est mal comporté. En revanche, aujourd'hui, on a les moyens de savoir. Là, il n'était pas dans une tribune, je veux dire, d'ultra, il était dans une tribune latérale. On a les billets nominatifs, on a le moyen de savoir qui c'est. En revanche, aujourd'hui, c'est terminé. C'est comme aux États-Unis. Tu vas voir un match de NBA, tu te comportes mal dans la salle, t'es mis dehors et tu reviens plus jamais voir un match de NBA de ta vie. Et ben là, c'est pareil. Si on veut des belles tribunes avec un esprit apaisé, avec un esprit familial, avec des supporters qui supportent, et ben les mecs qui se comportent mal, qui insultent, qui lancent des trucs sur les arbitres ou sur les joueurs, c'est dehors et c'est terminé. Ils reviennent plus jamais de leur vie dans un stade.
Donc surtout pas de sanctions collectives, non, mais des sanctions individuelles.
Parce qu'il y a des sanctions collectives, le huis clos, le truc, etc. Les fumigènes sont interdits. Alors par contre, il y a une autre chose qui est, je fais le distinguo, c'est les banderoles, les fumigènes. Moi, j'aime bien les fumigènes. Mais aujourd'hui, c'est une règle. C'est comme avec Benigno, il y a une règle. C'est interdit. Là, par contre, c'est le club qui est responsable. Le club, il sait qu'il y a des groupes de supporters, ils ont la sécurité, la sécurité est employée par le club, ils sont responsables des banderoles et des messages qui sont dans le stade et des fumigènes. Par contre, un jet de pétard, un jet de pièce, une agression dans les tribunes ou quoi que ce soit, ça c'est un individu, lui on le chope et merci, au revoir.
Pour aller, en tout cas, et pour compléter ce que tu dis, sachez que le supporter soupçonné d'avoir jeté une pièce de monnaie sur l'arbitre de touche va être jugé le 13 octobre prochain. Le club a déposé plainte justement contre ce supporter qui devra répondre des chefs de violence aggravée suivie d'incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours à l'occasion d'une manifestation sportive. Il a 28 ans, il est inconnu des services de police et il a dit qu'il regrettait ce geste. Il a reconnu avoir lancé à deux reprises une pièce de monnaie, dont une pièce de 2 centimes, qui a atteint donc un arbitre de touche sur le sommet du crâne. Voici ce qu'a dit le procureur adjoint de la République.
Et après, c'est aussi les lois qui sont comme ça. Mais alors là, il y a eu atteinte entre guillemets à l'intégrité physique, mais c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, l'arbitre s'en est remis. Donc pour moi, j'ai pas envie qu'il soit sanctionné entre guillemets pénalement. Qui prennent, je sais pas quoi, une amende, prison.
Mais les stades sont terminés.
Mais par contre, sportivement, okay. Ouais, voilà.
Sarah veut réagir.
En fait, je pense qu'effectivement, la sanction individuelle est devient indispensable pour une autre raison. C'est que quand tu sais que c'est une sanction collective, ça t'incite à dire, bah, de toute manière, je peux le faire.
Bien sûr.
On va pas me sanctionner, je vais me cacher dans la masse, et donc effectivement des gestes où tu aurais envie de le faire, bah tu passes à l'acte. À partir du moment où tu vas faire des sanctions individuelles systématiquement avec des jugements systématiques, et moi j'en suis même à donner le nom de la personne qui a fait,
avec les caméras tu peux dans les stades,
oui,
qui a commis ce délit ou cet acte, et ben en fait à force de répéter ça systématiquement, les gens qui vont dans le stade, ouais, et qui ont un moment sont en train de péter une durite et sont à deux doigts de passer, en disant ben en fait on va savoir que c'est
Sarah,
moi.
Sarah, quand on va individualiser la sanction, ouais, on va responsabiliser les auteurs de ces faits là et là il faut appuyer. Alors je suis d'accord sur le pénal, mais plus de stade,
ouais,
voilà,
ouais,
c'est fini, tu t'as fait le con. C'est terminé.
On peut plus se permettre.
Ok. Bon voilà, c'était très intéressant les GG de vous écouter sur ce dossier. Bravo Julien d'avoir remporté
une contre-attaque dans ma carrière.
Franchement, c'est beau.
Ouais.
Du fond du court.
On dit bien.
On va le mettre sur ta fiche de palmarès.
Merci. Voilà. T'as gagné une finale. Regarde.
Voilà. Je suis là. Bravo. Allez, on continue le débat à partir de 11h là, dans quelques instants, dans les grandes gueules du sport. Le Real Madrid est-il devenu fou? Vous allez, et on va tout vous raconter cette histoire absolument incroyable, ça s'est passé hier à Séville à l'occasion de la finale de la Coupe du Roi qui a lieu ce soir, c'est le Classico Real Barça. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.